De 2000 ans d'histoire.
Bonjour, aujourd'hui un sujet méconnu, les Antilles françaises pendant la Deuxième Guerre mondiale.
Voici les Antilles attachées à la France depuis le milieu du XVIIe siècle, escale des grandes lignes de navigation. Par son importance et sa fécondité, le domaine français d'outre-mer est devenu un élément essentiel de la vie économique mondiale. Une force active de la civilisation, un glorieux témoignage de la grandeur de la France.
Ans d'histoire. C'étaient les plus anciennes possessions d'un empire colonial sur lequel, disait-on, le soleil ne se couchait pas. On les appelait les vieilles colonies. Pendant la guerre, à 7000 km de la France, la Martinique et la Guadeloupe n'ont pas connu l'occupation. Mais leur situation dans les Caraïbes, tout près des côtes américaines et sur la route du canal de Panama, leur a donné une importance stratégique considérable. Surtout lorsqu'en 1942, l'Amérique est entrée en guerre. Cette année-là, les Antilles devenaient alors un enjeu de la Deuxième Guerre mondiale. Pour le régime de Vichy, qui en avait gardé le contrôle, pour le général de Gaulle, qui cherchait à les rallier à la France libre, et pour les États-Unis, qui furent un moment tentés de s'emparer de ces colonies françaises de la mer des Antilles.
Sous les tropiques, l'armée américaine est en état d'alerte. Dans la jungle, les soldats venus des États-Unis s'habituent à la chaleur des Caraïbes, touchées elles aussi par la guerre. Les alertes se succèdent. Des raids de sous-marins nazis font craindre des offensives aériennes sur les îles gardant le canal de Panama. Et les avant-postes les plus éloignés prouvent que l'Amérique est en danger.
Gilles Perrault, bonjour.
Bonjour. Alors,
cette archive américaine de 42 nous rappelle une bataille un peu oubliée aujourd'hui qui s'est déroulée aux Antilles, puisque là-bas, on l'a entendu, se trouvaient des sous-marins allemands. Vous en parlez d'ailleurs dans votre dernier roman, dont le héros est un sous-marinier allemand, justement, malade, abandonné par son commandant à la Martinique, où il va passer plusieurs mois. Je crois que vous avez fait de ça un roman, mais c'est une histoire vraie qui vous a inspiré dans ce livre.
Absolument, c'est un épisode qui a beaucoup marqué la Martinique et qu'on nous avait raconté maintes fois. Quand nous y avions séjourné, ma femme et moi, plusieurs mois, c'était en 76, et je dois dire que l'histoire m'avait beaucoup frappé. Oui, c'était un commandant second, il avait 21 ans, un tout jeune homme, qui avait participé à l'attaque sur l'île d'Aruba. C'est une île néerlandaise à l'époque qui était une véritable éponge à pétrole au large du Venezuela, avec des citernes énormes, et son sous-marin avait fait surface pour attaquer tout ça au canon. Il n'y avait pas de défense, c'était donc merveilleux, et tellement merveilleux que dans leur enthousiasme, ces sous-mariniers allemands ont oublié d'enlever le bouchon métallique qui protège le fût du canon en plongée, tant et si bien que le premier obus a fait exploser le canon et que ce garçon a eu une jambe déchiquetée. Il n'y avait pas de médecin à l'époque sur les sous-marins, un simple infirmier, pas possible de l'amputer, pas possible de le soigner.
Donc on l'abandonne sur la plage de la Martinique.
Et cet épisode allait prendre beaucoup d'importance. On va en parler dans la presse américaine, parce qu'on dit, mais c'est bien la preuve que les Antilles françaises, sous l'autorité de Vichy, aident les nazis.
Mais il faut rappeler que les sous-marins n'allaient pas seulement que sur les côtes du Venezuela, ils menaçaient la route du canal de Panama. Ils ont attaqué même les côtes américaines quand l'Amérique est entrée en guerre en 1942. Ils ont fait un carton d'ailleurs sur des bateaux américains.
Ah oui, oui, un carton des plus aisés. Les Américains étaient novices. Mmh. Les Anglais voyageaient déjà en convoi, protégés, etc. Les Américains, vous lisez, vous écoutez les anciens sous-mariniers, ils disent c'était merveilleux. Les enseignes lumineuses, il n'y avait pas de couvre-feu là-bas, les casinos, les restaurants sur la côte de Floride, les cargos et les pétroliers se découpaient comme au cinéma, donc un bonheur.
Alors on comprend que les Américains aient attaché une grande importance aux Antilles françaises qui, au lendemain donc de la défaite de 40, avaient reçu l'or de la Banque de France et des forces aéronavales importantes, comme le rappelle cette archive de la radio de Vichy en 1943.
Ce qu'il y a de plus important à la Martinique, ce sont les 368 millions de dollars or entreposés par le gouvernement français de Vichy. Le porte-avions français Béarn Le croiseur Émile Bertin, mouillé dans son grand port, qui pourrait contenir la flotte américaine de l'Atlantique tout entière. Ce sont encore les 100 avions américains vendus à la France et à la Belgique avant leur défaite, et maintenant entassés sur une colline, et qui représentent à l'heure actuelle un capital dont l'importance croît chaque jour.
Telles sont les raisons qui pousseraient les Américains à un coup de force sur la Martinique.
Alors c'était un chiffre de 1943. En 40, cela dit, au moment où commence la guerre, il n'est pas encore question d'une menace américaine sur les Antilles. Cela dit, on voit bien tout l'intérêt qu'il y avait, intérêt stratégique, matériel, hein, de l'or, des bateaux.
Absolument. Et d'ailleurs, la première menace, si l'on peut dire, entre guillemets, sur les Antilles, elle ne va pas venir des Américains, qui ont reconnu le régime de Vichy, qui ont un ambassadeur à Vichy, mais des Anglais. Le gouverneur britannique des Antilles britanniques débarque à Fort-de-France et demande à l'amiral Robert, qui est haut commissaire pour Vichy là-bas, eh bien, de se soumettre au dictat anglais, et il fait croiser des bateaux de guerre britanniques au large de Fort-de-France, au large donc de cette petite flotte française, enfin petite moyenne flotte, bon.
Il y avait la Jeanne d'Arc aussi.
Le Jeanne d'Arc était à la Guadeloupe. Oui. Qu'est-ce qui se prépare? L'équivalent de Merzel-Kébir. Merzel-Kébir va avoir lieu, c'est-à-dire l'écrasement de la flotte française, 40, juillet 40, par les Britanniques, qui ne veulent surtout pas voir ces bateaux partir du côté allemand. Ils vont faire la même chose, et qui proteste? Et qui indique que s'il y a un coup de force anglais, il en résultera un trouble sérieux? C'est le gouvernement américain.
Oui, assez curieusement, effectivement, au début, cet amiral Robert, donc haut commissaire de Vichy pour les Antilles et pour la Guyane, ne va pas entretenir de mauvais rapports avec les Américains. Ils ne sont pas en guerre, les Américains reconnaissent le régime de Vichy jusqu'en 1942, Gilles Perrault, et là, il se tourne plutôt vers les Américains, cet amiral Robert, et il faut dire que les Antilles en ont besoin de l'Amérique à l'époque.
Ah oui, il y a une incapacité à nourrir la population, il faut de l'essence, il faut des vivres, enfin, il faut des tas de choses. Et puis il faut la possibilité d'exporter les bananes, le sucre, etc. Donc, mais on voit bien qu'il y a des convoitises régionales. Il y a les Anglais qui se disent, si on pouvait mettre la main sur ces îles comme on l'a fait tant de fois au XVIIIe siècle, pourquoi pas. Il y a les Américains qui veulent évincer les Européens de ce qu'ils considèrent comme une mer à eux, la mer des Antilles, et il y a le canal de Panama. Et puis là-dedans, au milieu de tout ça, vous avez Robert qui essaye de louvoyer, c'est le cas de le dire pour un marin, et qui va s'appuyer sur les Américains pendant un certain temps, jusqu'à Pearl Harbor en tout cas, en passant avec eux des accords permettant à ces bateaux, laissant à ces bateaux une certaine autonomie, moyennant quoi ils signalent les déplacements de ces bateaux à l'avance aux Américains, ils leur donnent ces codes de communication, donc les Américains peuvent... Bon, voilà, il accepte donc une certaine surveillance américaine de façon à garder une certaine marge d'initiative.
Alors, il y a quelqu'un qui est très attentif à ce qui se passe aussi aux Antilles, vous ne l'avez pas mentionné, Gilles Perrault, c'est le général de Gaulle qui va envoyer tout de suite discrètement des émissaires vers ces îles françaises qu'il aimerait bien voir passer dans le camp de la France libre. Il envoie par exemple un certain Jean, le colonel Jean Massip, hein, qui expliquera plus tard que bien avant la libération des Antilles en 43, eh bien celles-ci ont tenté de résister. On écoute le colonel Massip au micro de la radio gaulliste.
Et voici maintenant l'émission des provinces d'outre-mer, une réalisation du service des émissions coloniales. Le colonel Massip vous parle. Ce sont nos vieilles colonies des Antilles, la Martinique et la Guadeloupe, qui, le 14 juillet 1943, rentrèrent les dernières dans la guerre. Il faut qu'on sache surtout qu'elles n'attendirent pas le 14 juillet 1943 pour manifester leur attachement. Elles l'affirmèrent notamment dès le lendemain de la capitulation de Bordeaux, en réclamant, par la voix de leurs élus, le droit et l'honneur de rester dans la guerre. Et si leurs demandes demeurèrent sans effet, c'est uniquement parce que l'amiral Robert, haut commissaire du gouvernement Vichy, les rejeta.
Alors Gilles Perrault, c'était une archive de 1944, le colonel Massip faisant allusion à une des toutes premières manifestations de la résistance dans les Antilles, d'une volonté même de se rallier au général de Gaulle qui va échouer. C'était dès le mois de juin 40, je crois.
24 juin 40, donc quelques jours après l'appel du 18 juin. Et là, il se passe vraiment quelque chose d'extraordinaire. L'unanimité des maires et des conseillers généraux de Martinique et de Guadeloupe vote une motion demandant la continuation du combat aux côtés de la France libre, aux côtés des alliés. L'unanimité, c'est vraiment, je crois, le seul territoire où l'on ait vu un tel élan. Enfin bon, c'était extraordinaire et ça reste extraordinaire. Il ne faut jamais l'oublier. Et
alors l'amiral Robert va évidemment refuser cette proposition. Cela dit, il faut quand même rappeler qu'un certain nombre de ses députés ou un sénateur, comme le sénateur Lemery, vont malgré tout rallier le régime de Vichy. Lemery va même être un ministre du gouvernement de Vichy.
Il va être ministre des colonies, mais j'ai dit l'unanimité des maires et des conseillers généraux. Lui, il était sénateur. Lemery était un homme d'extrême droite, le régime de Vichy ne pouvait que lui plaire. Il a donc été ministre des colonies. Mais là, nous, encore une fois, tous les maires, tous les conseillers généraux, vous savez, c'est rare ça tout de même. Et s'il y avait eu un haut commissaire autre que Robert, qui aurait écouté cet appel, enfin venu des représentants élus de la population, des populations martiniquaises et guadeloupéennes, il est évident que dès juin 40, la Martinique et la Guadeloupe auraient rallié la France libre. Et vous vous rendez compte quelle importance ça aurait eu pour la France libre, qui n'avait rien à cette époque. Quelques dizaines de Français rassemblés à Londres, bon, venus d'un peu tous les coins.
Le Tchad, qui...
pas tout de suite, quand même. Et la Martinique et la Guadeloupe auraient été les premiers morceaux de France. Ça aurait donné un poids considérable à De Gaulle.
Alors, ça ne se produit pas parce que l'amiral Robert, donc, au commissaire... Il a été nommé en 39, vous le rappelez. Il n'a pas été nommé par Vichy, il a été nommé par Daladier.
Par Daladier, c'était un vieil amiral qui venait de prendre sa retraite. Il ressemble physiquement, c'est le portrait de Napoléon III, une petite barbiche blanche. Il faisait très vieux déjà en 40, il faisait 19e siècle. C'est un homme indécis, pas maladroit, certes indécis, et ce sont ses adjoints, c'est son état-major qui l'a poussé à marcher avec Vichy.
Et à mettre en place un régime aussi autoritaire qu'à Vichy, Gilles Perrault, comme d'ailleurs le découvrent deux visiteurs inattendus de passage aux Antilles en 1941, la revue de texte Stéphanie Duncan.
Oui, en avril 1941, débarquent à la Martinique, fuyant la France occupée, quelques personnalités pour le moins surréalistes, c'est le cas de le dire, parmi eux le poète André Breton, et oui, avec sa famille, et l'ethnologue Claude Lévi-Strauss. Alors, ils ne resteront pas très longtemps là, mais ils décriront plus tard l'accueil extrêmement brutal qu'il aurait fait. Une soldatesque en proie à une forme collective de dérangement cérébral, écrit Lévi-Strauss. En plus largement, l'ethnologue décrit l'état d'esprit pro-Pétain et abusant aussi du punch de l'armée française aux Antilles. Au moment de l'armistice, écrit Lévi-Strauss, les gradés, loin de rallier la France libre, se sentirent à l'unisson du régime métropolitain. Leur esprit malade retrouvait une sorte de sécurité à remplacer un ennemi réel mais invisible, les Allemands, par un ennemi imaginaire mais qui avait l'avantage d'être proche et palpable, les Américains. Alors les deux intellectuels, après avoir été copieusement insultés à leur arrivée, la Martinique, seront internés et étroitement surveillés. Et le capitaine de la gendarmerie déclare à André Breton: prenez garde, poète surréaliste, aucun besoin de ça à la Martinique. Vous n'avez personne à voir ici, évitez surtout les éléments colorés. Ce sont de grands enfants, ce que vous pourriez leur dire, ils le comprendraient tout de travers. Alors très vite, ce qui frappe André Breton, c'est l'impopularité du régime. Le gouvernement de Vichy, dit-il, ne jouit ici d'aucun prestige. Son programme de prétendue régénération ne rencontre aucun crédit. Les émissions de Radio Martinique sous-estiment à l'extrême le discernement de leurs auditeurs. Français, vous avez assisté au miracle de Jeanne d'Arc. Vous assistez aujourd'hui au miracle Pétain. De même, ajoute André Breton, les journaux locaux impriment chaque jour à l'intention de leurs lecteurs noirs, en langage petit nègre, l'éloge dérisoire des dernières mesures prises par l'ibon papa Pétain. Mais, remarque aussi André Breton, le portrait du maréchal est régulièrement lacéré dans les rues, les couches les plus larges de la population laborieuse de l'île n'ont d'espoir qu'en la victoire anglaise et la répression est rigoureuse. On parle de 300 arrestations opérées en un seul jour. Et malgré la surveillance policière, André Breton fera une rencontre décisive, celle du poète noir Aimé Césaire, qui vient de lancer dans ce désert culturel une revue de poésie tropique. Et malgré la censure, cette revue essentiellement littéraire dénonce aussi, sans les nommer bien sûr, Hitler et le régime de Vichy. « Où que nous regardions, écrit Aimé Césaire, l'ombre gagne. Pourtant, nous sommes de ceux qui disent non à l'ombre. Nous savons que le salut du monde dépend de nous aussi, que la terre a besoin de n'importe lesquels d'entre ses fils, les plus humbles. L'ombre gagne. Les hommes de bonne volonté feront au monde une nouvelle lumière. »
L'ombre gagne sous le soleil des tropiques, Gilles Perrault. C'est un régime de quelle nature qui s'est mis en place? Là, on l'a vu dans ses textes, c'est très autoritaire, très répressif.
C'est très autoritaire, c'est la Martinique et la Guadeloupe ont été littéralement prises en main par les marins qui étaient des gens d'extrême droite, antisémites. Je généralise, il y avait
oui,
tout.
Pas tous. Bon, pas et tous. Qui étaient surtout aussi des gens, vous l'avez rappelé, très impressionnés par Mercel Kébir.
Eh bien oui, voilà, Mercel Kébir, ça a été une blessure, vraiment, il faut dire, 3000 marins français tués. Comme
par
ça,
la flotte anglaise, en 40, oui.
Ça a créé, alors il y avait déjà un peu d'affinité entre les marins français et britanniques, mais là, ça a creusé, bon. Mais alors, on a assisté à quelque chose qui pourrait être traité sur le ton, dans le ton de la farce, la révolution nationale sous le soleil des Antilles, la régénération morale de la Martinique et de la Guadeloupe pensaient qu'on a été, ça c'était une mesure très impopulaire, on peut dire qu'elle n'a pas été comprise, ils avaient supprimé le carnaval. Alors le carnaval aux Antilles, c'est une manifestation. Bon, voilà. Alors donc, travail, famille, patrie, chasteté, abstinence, expiation des péchés de la France, bon, etc. Mais avec en même temps des mesures très rudes, Breton le rappelait à juste titre, des arrestations, un bagne, des condamnations à répétition, une police que la population appelait la Gestapo et qui a vraiment utilisé les mêmes méthodes que la Gestapo.
Vous dites les marins, bon, parce que l'amiral Robert était officier de marine, comme beaucoup des gens qui avaient des responsabilités. Il y avait aussi l'armée de terre, vous dites qu'il y avait une certaine différence entre l'armée de terre et l'état d'esprit de l'armée de terre et celle des marins.
Oui, l'armée de terre était républicaine. L'armée de terre était républicaine, c'était peu de choses, hein, l'armée de terre. Et puis l'armée de terre était composée, en grande partie de Martiniquais, de Noirs. Bon, et il était évident que ce régime raciste, car la dictature de Robert avait des relents racistes qu'on a bien vu, qu'on a bien entendu, qu'on a bien repéré dans les lectures qui ont été faites, évidemment ça ne pouvait pas plaire aux Noirs de la Martinique, et donc l'infanterie ne marchait pas dans cette histoire de révolution nationale. La gendarmerie était partagée, mais en tout cas il y avait une petite troupe d'infanterie au camp de Balata notamment, qui était à couteau tiré avec les marins.
Un régime impopulaire qui devait l'être de plus en plus, parce qu'en 1942, Gilles Perrault, il faut le rappeler, brusquement tout change quand l'Amérique entre en guerre. À ce moment-là, elle qui reconnaissait le régime de Vichy va interrompre ses rapports avec Vichy. Il y avait un ambassadeur à Vichy qui s'appelait l'amiral Leahy, qui est encore un amiral, mais américain celui-là, hein, et alors qu'il va quitter Vichy, et puis ils vont rompre aussi leur rapport avec l'amiral Robert, et là il y aura un blocus de l'île qui va être assez dur
à supporter. Un blocus très dur, parce que encore une fois l'île, c'est son drame et son problème, et c'est ne peut pas assurer sa subsistance, et donc il fallait des importations, et là le blocus devient vraiment très très rude, et il y aura sinon la famine, qui serait un mot excessif, une véritable disette, et surtout dans les villes, à Fort-de-France, vraiment, alors là, on pourrait presque parler de famine à Fort-de-France, dans les campagnes c'est un peu différent. Donc on manque de tout, alors l'ingéniosité supplée, on trouve moyen de fabriquer du savon, on fait de l'essence, enfin un ersatz d'essence avec le jus de canne, etc., mais enfin tout de même, les assiettes étaient vides. Il y a une exaspération. Alors, une exaspération née des conditions matérielles difficiles, puis une exaspération, comment dire, intellectuelle, morale. Le monde entier, enfin, est dans cette deuxième guerre mondiale. Tout ça, c'est dans l'hémisphère du côté américain et qui est mobilisé contre les nazis. Et puis, il y a ces deux îles-là qui restent en dehors du coup, qui ne participent à rien. Les gens veulent se battre pour...
Oui, il y en a beaucoup d'ailleurs qui partent, Gilles Perrault, qui vont partir par l'île de Sainte-Lucie, hein, qui est à côté, et qui vont partir rejoindre la France libre, je crois.
C'est ça, c'est ce qu'on appelle les dissidents. Beaucoup de jeunes s'en vont sur des bateaux très fragiles, hein, les gommiers, qui ne sont pas bons, prévus pour de longues croisières, mais enfin, c'est pas loin, l'île de la Sainte-Lucie, qui est britannique, l'île de la Dominique, britannique aussi. Plus de 3000, hein, qui vont rallier ces îles pour s'engager dans la France libre. Il y a eu un mouvement. Si vous mettez ça à la mesure, à l'échelle française, du point de vue des chiffres, ça représenterait une population formidable qui aurait rallié l'Angleterre dans ces années-là.
Et puis dans l'île aussi, hein, Gilles Perrault, à partir de 1943, alors là, à partir du mois de mars, d'abord il y a la Guyane ouais. qui est rattachée, si je puis dire, à la compétence de l'amiral Robert, puisqu'il est haut commissaire pour les Antilles et pour la Guyane. La Guyane entre en dissidence, passe du côté du général de Gaulle, puis alors dans l'île, il commence à y avoir des manifestations, des comités de libération qui se créent. Il y en a un qui se crée, je crois, en 1943 sous l'autorité de Victor Sévère, qui va fleurir la tombe du soldat inconnu, je crois, aux Antilles, enfin le monument aux morts, le jour anniversaire, le 18 juin 43, jour anniversaire du 18 juin 40.
Oui, absolument. Et alors la Guyane, donc, passe chez De Gaulle. Il y avait eu une manifestation violente, enfin massive, plus exactement, à la Guadeloupe. Et Robert n'avait pas hésité à faire tirer. Il y avait eu des dizaines de victimes.
Sauf qu'on ne le suit pas. Hein. Je crois qu'il y a eu également une mutinerie sur la Jeanne d'Arc, hein, ce qui n'est pas fréquent.
Oui, absolument. Oui. Non, il y a eu ce sentiment d'exaspération. Et alors, les Martiniquais sont très bien débrouillés. L'infanterie est passée en dissidence. Le camp de Balata, qui surplombe Fort-de-France, est passé en dissidence. Robert a voulu faire tirer, mais en même temps, les civils, le comité de libération avait organisé des manifestations, des vagues de manifestations jour après jour à Fort-de-France, avec toujours davantage de manifestants, et donc un crescendo. Là encore, Robert a hésité à noyer tout ça dans le sang. Il en avait les moyens. Et puis, il se sentait lâché par les Américains, bien sûr.
Il a même refusé, il faut le rappeler, de saborder la flotte.
Oui, c'est
parce
vrai.
Que Vichy lui a demandé de saborder la flotte,
Pétain
comme on a demandé
lui-même,
à la flotte de Toulon.
Lui-même.
Et il a refusé de la saborder, hein,
voilà,
les bateaux français qui étaient là-bas.
Ça doit être mis à son crédit. Il avait des ordres formels de saborder ces bateaux. Il a refusé, en invoquant des impossibilités techniques. Tant et si bien que ces bateaux, et dont le croiseur Bertin, qui était vraiment tout à fait moderne, hein, a pu participer.
Le Béarn, qui était le seul porte-avions à l'époque français.
Ouais, oui. C'est vrai. Mmh. Eh bien, tout ça a pu participer aux deux dernières années de la guerre.
Et à la
donc,
oui.
Oui, c'est moi ce que je trouve tout de même remarquable, c'est ces îles se sont libérées elles-mêmes, n'est-ce pas, voyez-vous. Et c'est en continuité de l'appel unanime des maires et des conseillers généraux en 40. Bien, en 43, c'est le mouvement des Martiniquais, des Guadeloupéens qui a abouti à leur ralliement à la France libre et donc à cette libération de ce qu'il faut appeler une dictature.
Le 14 juillet 1943, hein, il faut le rappeler,
le 14 juillet
l'ambassadeur Opneau qui est envoyé par De Gaulle, qui arrive triomphalement à Fort-de-France.
Voilà. Et qui commence, tout de même, un bémol, et qui commence par rendre hommage à l'amiral Robert, qui a su préserver la souveraineté française sur les îles des Antilles.
Et c'était la libération de la Martinique un an avant celle de la métropole, où sont partis se battre de très nombreux soldats antillais, comme ceux que l'on retrouve en avril 1945 devant la poche de Royan.
Nous avons trouvé dans un petit village de la Charente-Maritime un bataillon de marche antillais. Et c'est avec un réel plaisir que nous avons voulu lui consacrer quelques instants. Vous entendez en ce moment un quatuor vocal qui interprète un air de cette terre lointaine. Et vous pouvez certainement constater combien chez ces hommes existe un rythme profond. Nous ne sommes pas ici pour parler musique. Sachez seulement que ces Antillais vont dans quelques heures attaquer les positions allemandes du front de Royan. Le calme règne, ils sont sûrs d'eux, sûrs de leurs réflexes, et c'est pourquoi maintenant ils s'échappent de ce qui les attend tout à l'heure, c'est-à-dire la lutte pour la vie, pour le droit de vivre. Peut-être y a-t-il aussi dans leur esprit l'espoir d'un prompt retour, mais en attendant, ils chantent et écoutez-les.
Oh,
Et les Antilles en train de chanter devant la poche de Royan en avril 45, ils vont participer au combat. Il y a même un officier qui s'est insurgé contre Robert en 1943, deux ans plus tôt, qui va être tué devant la poche de Royan.
Et oui, le commandant Tourtet, qui avait mené la révolte militaire en association avec le comité de libération nationale, qui a donc pris des risques importants et qui a été le héros militaire de cette libération des Antilles, il va être tué malheureusement sur le front, enfin devant la poche de Royan.
Gilles Perrault, il va de soi que la participation des Antillais, comme d'ailleurs de tous les habitants des colonies françaises, qu'on appelait encore des colonies à l'époque, ça va avoir un impact considérable. Il y a un lien direct entre cette participation, ce ralliement à la Française, sa participation à la guerre, et la décolonisation. Pour ce qui concerne les Antilles, c'est la départementalisation. En 1946, ça devient des départements français, fini les colonies.
Oui, vous avez raison, c'est la conséquence. De même que, après le rôle joué par les femmes dans la résistance, il était impossible de leur refuser le droit de vote après la libération. Les Antilles françaises avaient montré un tel patriotisme, avaient contribué, avaient apporté une contribution telle à la victoire, à la présence de la France dans la victoire, que il n'était plus possible de les considérer comme des colonies. Donc ça a été la départementalisation qui ouvrait une nouvelle page de l'histoire antillaise.
Merci Gilles Perrault. Je rappelle donc que vous êtes l'auteur d'un roman dont l'intrigue se passe aux Antilles pendant la Deuxième Guerre mondiale, Les vacances de l'Oberleutnant von La Rochelle, et qui a été édité chez Fayard. À lire également Une histoire des Antilles françaises, un livre passionnant de Paul Butel, publié chez Perrin. Vous pouvez retrouver ces renseignements en contactant le service des relations avec les auditeurs au 0892 68 10 33, 34 centimes d'euros la minute, ou consulter notre site sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, à la technique Loïc Durot et Emmanuel Dupuis, Archivina Raïssa Blankoff et Sandra Escamez. Documentation Anne Weinfeld et Virginie Bloch-Lenné. Revue de texte Stéphanie Duncan, une réalisation de Anne Kobilac.
Une émission de Patrice Gélinet. C'était une émission déjà diffusée le 18 février 2002. Demain, dans 2000 ans d'histoire, les patrons français sous l'occupation. Et d'ici quelques minutes, Vallier et ses incroyables chroniqueurs vous invitent à suivre un nouveau numéro de C'est comme à la radio. Ils entourent admirablement Vallier aujourd'hui, Sophie Lessort, Stéphane Martinez, Julien Pascal. Vous écoutez France Inter, il est 14h. Les informations, Nathalie Saint-Olive, bonjour.
Bonjour, l'UMP va déposer une proposition de commission d'enquête sur la canicule. C'est ce qu'a déclaré Jean-Michel Dubernard, le président de la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale. Ce soir, les professionnels de la prise en charge des personnes âgées sont reçus à Matignon par le Premier ministre en vue du lancement du plan vieillissement et solidarité. Le ministère des Affaires étrangères a dénoncé un acte de lâcheté après la mort de deux soldats français de l'opération Licorne en Côte d'Ivoire. Michel Alliomarie, la ministre de la Défense, leur a de son côté rendu hommage. Ils ont été tués hier par des ex-rebelles dans le centre du pays lors d'un accrochage. Aucun lien avec l'arrestation de 10 mercenaires ce week-end à Paris qui préparaient une opération de déstabilisation du pouvoir ivoirien. La DST poursuit en ce moment leur audition. 8 personnes ont été blessées, dont 2 grièvement, devant un arrêt d'autobus à Marseille. Elles ont été fauchées par une voiture folle. Parmi les blessés figure une fillette de 5 ans. La conductrice s'est spontanément présentée aux policiers. Le vice-premier ministre indien exige que le Pakistan extrade 19 criminels recherchés par son pays. Pour lui, la condamnation par Islamabad des attentats survenus hier à Bombay ne sont que pure formalité. Ces attentats ont fait 52 morts et 150 blessés. Les autorités privilégient la piste islamiste radicale. Au Rwanda, l'opposition réclame un nouveau scrutin après la réélection triomphale de Paul Kagame, le président sortant. L'ancien Premier ministre, principal candidat de l'opposition, invoque l'absence de transparence. À ce propos, la chef de la mission d'observation de l'Union européenne a déclaré que ce scrutin laissait une impression contrastée. Mahmoud Abbas convoquera le Parlement palestinien la semaine prochaine pour un débat sur l'avenir du gouvernement. Le Premier ministre est engagé dans un bras de fer avec le président Yasser Arafat. L'Assemblée palestinienne discutera de la crise actuelle. La réunion pourrait déboucher...